Merci beaucoup les musiciens, Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse chacun d'entre vous, amen. Oui, il faut aussi peu de choses, comme j'ai chanté, il l'a chanté, pour que le ciel soit bleu, il suffit d'une rose. Que Dieu mette un bleuet dans les cieux, un peu d'amitié, c'est magnifique. En tout cas, nous ici, on est heureux, on est content. Ah, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème, mais on a plus de solutions que de problèmes. Amen.
Amen.
C'est vrai. On va lire Luc chapitre 4, versets 16 à 21 pour commencer. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue, c'est-à-dire l'assemblée religieuse du coin. Le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Amen. Alors, pour un chrétien, ce n'est pas un simple passage des Écritures, c'est la parfaite description de ce que Jésus est venu faire pratiquement sur cette terre. Outre le fait qu'il est venu pour donner sa vie, en mourant sur la croix pour le pardon de nos péchés, entre le moment du début de son ministère et la crucifixion, eh bien, c'est cela qu'il a fait. C'est six choses sacrées. On va lire Jean chapitre 14, versets 12 à 14. C'est Jésus toujours qui parle et qui dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Ces paroles de Jésus ne sont pas réservées à une élite une élite pastorale ou une élite d'évangélistes à succès ou à des prophètes. Non. Jésus est clair. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes. Qui fera cela? Eh bien, ceux qui croient en lui. C'est ce que Jésus dit. On ne peut pas dire qu'il ne l'a pas dit. Il l'a dit. Que feront-ils? Eh bien, ce que Jésus a fait. Il dit, tout ce que j'ai fait, vous le ferez aussi, et même encore des choses plus grandes. Alors, on va relire Luc 4, 16, 21. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans l'assemblée le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Que feront-ils ceux qui croient en lui? les mêmes choses que lui a faites. C'est-à-dire ces six choses sacrées. 1. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. 2. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. 3. Proclamer aux captifs la délivrance. 4. Proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. 5. Renvoyer libres les opprimés. 6. Publier une année de grâce du Seigneur. Voilà ce qu'il a fait, et voilà ce que doivent et peuvent faire tous ceux qui croient en lui. Combien de chrétiens prient, Seigneur, qu'est-ce que c'est ta volonté pour ma vie? C'est ces six choses. Si tu fais ces six choses, tout le reste va découler. C'est pas plus compliqué que ça, c'est la vie chrétienne normale. Il savait très bien, Jésus, qu'en faisant ces six choses, il serait mal vu. Et il a été mal vu. Il faut donc s'attendre à ce que, si nous faisons ces six choses, nous soyons également mal vus. C'est quand même étrange, parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a de mal à faire ces six choses? Elles sont toutes bonnes, ces choses. Elles élèvent ceux qui sont dans les bas-fonds du monde, qui sont victimes d'injustice, victimes de leur passion, de leur propre péché. C'est une de ces choses guérit ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que c'est mal d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres? Est-ce que c'est mal? Alors, vous êtes devant votre télé et vous voyez des gens qui gagnent 7800 euros par mois. J'ai vu, c'est le prix de ce que gagnent ceux qui sont dans l'hémicycle, parce qu'ils ont eu aussi, n'est-ce pas, une hausse, comme nous, pauvres petits retraités. Mais eux, c'est 7800 un peu. Voilà. Et ils vous disent, la bouche en cul de poule, que vous devez faire des économies. C'est une bonne nouvelle. Par contre, quand Jésus annonce une bonne nouvelle aux pauvres, il leur dit comment faire pour vivre l'abondance. Tout le secret de l'abondance est dans le message de Jésus, dans le message de la Bible. Il y en a qui disent, oui, non, mais c'est pour l'Ancien Testament. Non. Jésus dit, vous donnez la dîme de ceci, la dîme de cela, vous faites bien, mais vous oubliez de faire les autres choses. Il ne dit pas que c'est mal de donner la dîme. Si vous dites ça aux gens, même aux pauvres, ils vont mal le prendre. Ils vont mal le prendre. Annoncez-leur une bonne nouvelle comme ça, ils vont mal le prendre. Ils vont vous dire que la dîme, c'est une arnaque. C'est vrai qu'il y en a, il y a des pasteurs et des prophètes qui arnaquent les gens avec ça, c'est vrai. Mais ils vont vous dire, aujourd'hui, on est sous une nouvelle alliance. On n'a plus à donner la dîme. Ok. Gardez-la, votre dîme, on n'en a rien à faire. C'est pas à nous que vous la donnez, c'est à Dieu. Si vous voulez la garder, vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Ah bon, mais qu'est-ce que tu nous dis là, Michel? C'est écrit, hein. C'est dans Malachie. Et on doit vivre de toute la parole de Dieu. Malachie 3, verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction, vous me trompez, la nation tout entière, apportée à la maison du trésor, c'est-à-dire au temple, à l'église, les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est-à-dire que on puisse faire des choses avec ces dîmes. Vous voulez pas? On s'en fout! Vous êtes maudits et on s'en fout. C'est votre choix, on ne va pas aller contre votre choix. Hein, quelqu'un qui décide quelque chose, il se sent fort. J'ai décidé que je ne veux pas le faire. Fais-le pas. Mais qu'est-ce que ça peut nous faire? Ça ne va pas empêcher le soleil de se lever. Ça ne va pas nous empêcher d'être bénis. Je lisais dernièrement un rapport, parce que vous savez tous que je suis suisse. La Suisse est un peuple béni, c'est un pays béni. Les gens disent « Oh oui, mais la vie est chère ». Oui, la vie est chère. Mais chaque citoyen donne aux serviteurs de Dieu. L'Église est une Église d'État. Moi, quand j'étais en Suisse, je faisais partie de l'Église nationale. Et il y a un impôt qui est prélevé par l'État. Une partie de cet impôt sert à payer les passeurs. Tous les Suisses, même les Suisses incroyants, ils payent leurs pasteurs, ils payent les pasteurs. Et puis les pasteurs qui ne sont pas de l'Église nationale, parce qu'il y en a, les pentecôtistes, les baptistes, les darbistes, tout ça, ce sont des véritables serviteurs de Dieu, mais ils ne veulent pas faire partie de l'Église nationale, c'est un choix. Mais ils prélèvent, en plus de l'impôt d'État, la dîme. Ils prélèvent tous la dîme. Hein. Toutes ces églises prélèvent la dîme. J'ai lu les comptes suisses pour 2022. Vous savez à combien s'élève le SMIC en Suisse, c'est-à-dire le salaire minimum interprofessionnel, c'est quoi déjà, je ne sais plus. Tu sais toi? Quoi donc? De croissance. Le SMIC suisse est à 4000 euros. Hein, si on traduit les francs suisses en francs en euros, ça fait 4000 euros. C'est le salaire minimum d'un Suisse. Alors oui, la vie est un peu plus chère, mais les salaires sont très élevés. Le SMIC en France est de 1359 euros. Vous voulez faire comment pour vivre avec 1359 euros en France? Parce que la vie est chère aussi en France. Et en plus, elle a paix de moutarde. Et ce matin, j'ai lu qu'on aura bientôt plus de riz. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la France est comme ça? Malachie 3.9. Relisez ce texte et vous comprendrez. C'est pas agréable, hein, d'entendre ça. Je suis pas venu pour vous dire des choses agréables, je suis venu pour vous dire des bonnes nouvelles. Mais ceux qui n'en veulent pas, mais tant pis pour vous, tant pis pour vous. Jésus l'enseignait, il annonçait aux pauvres la bonne nouvelle de cette manière. Parce que, qu'est-ce que c'est une bonne nouvelle pour un pauvre? C'est qu'il va être financièrement à l'aise. La bonne nouvelle pour un pauvre, c'est pas qu'il va recevoir un camion d'une tonne de sparadrap. La bonne nouvelle pour un pauvre, c'est pas que ses cheveux vont repousser. C'est quoi la bonne nouvelle pour un pauvre? C'est une question d'argent. Et Jésus est venu dire ce qu'il y a à faire pour que les pauvres puissent devenir riches. Il a dit, je me suis fait pauvre afin de vous enrichir. Oh, mais c'était spirituel. D'accord, c'était spirituel. Vous qui aimez bien spiritualiser toute chose, c'était spirituel. Ça n'a rien de matériel. Le matériel, c'est tellement secondaire, on n'en a tellement pas besoin. Tout est spirituel dans la Bible. D'accord, vous avez raison. Continuez comme ça. Moi, ça m'est égal. Ça m'est égal. Et je le prêche quand même. Prêchez-le. Annoncez ça aux pauvres. Et puis vous allez voir comment vous allez être reçus particulièrement dans ce beau pays de France. Par les pauvres. Certains chrétiens se targuent de prêcher le plein évangile. Ils ont 4 points. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise et Jésus revient. Ça, c'est le plein évangile, d'après eux. C'est pas ça le plein évangile. Le plein évangile, c'est ce que nous avons à croire et à vivre, c'est-à-dire les 6 choses décrites par Jésus dans Luc 4, 18-19, qu'on a lu tout à l'heure. C'est ça le plein évangile. La bonne nouvelle. Alors maintenant, on va lire la suite de ce qui est arrivé après que Jésus ait dit ces six choses. Je vous invite à reprendre Luc 4 et on va prendre au verset 20. Ensuite, donc après avoir lu ces six choses, il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans l'assemblée, dans la synagogue, avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous durant le témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» C'est étonné, parce que c'était dans son bled qu'il a dit ça. Les gens le connaissaient. Il l'avait vu tout gamin. N'est-ce pas le fils de Joseph ? Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum, c'est-à-dire tous les miracles. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et aucune d'elles, aucune de ces veuves d'Israël, si ce n'est une veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Élie n'a pas été envoyé vers les veuves d'Israël, mais vers une étrangère. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien, pas le Juif, pas l'Israélien, l'Israélite, l'homme ou la femme du peuple saint de Dieu. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, ils le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Ça, c'est aussi un miracle formidable. Il a fui et a laissé ces pauvres gens dans leur colère, dans leur idée de meurtre et tout ça. Lisons maintenant, donc on a lu la suite, et voilà pourquoi Dieu n'a pas béni son peuple au temps d'Élie. Ben, il suffit de lire l'histoire du temps d'Élie, c'est parce que le peuple désobéissait. T'es maudit, parce qu'il désobéissait. Alors Dieu a envoyé Élie dans un autre pays, à Sarepta, Sidon. Ah là là, l'air. Il a laissé tomber son peuple. Il a laissé tomber. Au temps d'Élisée, pourquoi Dieu n'a guéri aucun lépreux de son peuple? C'était pas une lubie de sa part. C'est simplement parce que son peuple avait le cou raide, n'obéissait pas. Alors Élisée a guéri un lépreux étranger, un Syrien. Bravo Jésus. Il est cohérent avec ce qu'il dit. Alors, dans la réalité, que se passe-t-il au temps d'Élie et d'Élisée? Ben, le peuple allait au temple. Ah, ça oui, ils allaient au temple. Ils levaient les mains vers le ciel. Alléluia, éternel, notre Dieu, tout-puissant, prends soin de nous. Tu vois dans quelle misère on est. Tu vois comment on nous spolie, on nous vole. Hein? T'as vu comment c'est triste, on n'a plus d'argent, les impôts nous prennent tout, c'est affreux, viens notre secours, oh Dieu tout-puissant, tout-puissant, tu es tout-puissant Seigneur, oh combien tu es tout-puissant, comme si Dieu ne savait pas qu'il était tout-puissant. Ça oui, ils allaient, et puis ils faisaient des sacrifices, ah ça oui, un pigeon ça coûte pas bien cher. Mais Dieu n'en voulait pas de ces sacrifices. On va lire 1 Samuel 15, 22. Voilà ce qu'il dit. Dieu, l'Éternel dit, Samuel dit, l'Éternel vous trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance à sa parole ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi. Ben voilà, Dieu, c'est pas un rigolo, c'est pas un copain. C'est bizarre parce que quand même, c'est quand même Dieu qui avait dit de faire des sacrifices. Alors pourquoi il voulait pas les sacrifices? Ben c'est simple. Il en avait marre de voir ce peuple faire des sacrifices simplement parce que son peuple pensait que ça suffisait. On désobéissait dans des tas de trucs, on faisait ce qu'on voulait, on péchait, et hop, on allait au confessionnal, pardon, on allait au temple pour demander pardon, faire un sacrifice, et puis Dieu nous pardonne, voilà. Hein, c'est bonheur. Et Dieu leur dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de ma parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Quand vous ne donnez pas votre dîme, c'est comme si vous allez voir les astrologues. Quand vous ne donnez pas votre dîme, c'est comme si vous allez voir les spirites. Quand vous ne donnez pas votre dîme, c'est comme si vous alliez chez les sorciers, chez les sorcières. Quand vous ne donnez pas votre dîme, c'est vous êtes comme ceux qui font la divination, qui invoquent les morts. Voilà ce que Dieu dit. Oh, mais Michel, c'est sévère. Oui, mais Dieu a jamais dit que il était un tendre Père céleste qui passe l'éponge sur toutes nos bêtises. Non. Il y a des conditions. La désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance à ma parole, c'est comme l'idolâtrie. Les protestants disent, non, on n'est pas des idolâtres, nous, on n'a pas des statues, on ne va pas se prosterner devant. Oui, mais quand vous ne donnez pas votre dîme, c'est comme si vous faisiez des genouflexions devant la Vierge Marie, devant les statues de Joseph, et que c'est comme si vous alliez prier Sainte Rita, c'est la même chose, la même chose. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Vous savez pourquoi je vous dis toutes ces choses? Parce que j'ai bientôt 73 ans, j'arrive au bout de ma vie, et puis je vous dis toute la vérité, rien que la vérité, parce qu'il se pourrait très bien qu'un jour je vienne à disparaître, et je veux pas me rendre coupable de vous avoir caché la vérité. Je vous dis la vérité. Si vous n'obéissez pas à Dieu, c'est comme si vous étiez des sorciers, et des idolâtres. Et Dieu dit, enfin, je te rejette. Que Dieu a-t-il à dire aujourd'hui à son peuple, c'est-à-dire à son Église? Tu pries, tu jeûnes, tu chantes des cantiques, tu vas de temps en temps à l'Église, tu écoutes Michel Janton sur Internet, tu donnes 20 centimes à la collecte. Mais le reste du temps, tu fais quoi? Est-ce que tu fais les 6 choses sacrées que Jésus a dit que tu dois et que tu peux faire? Est-ce que tu proclames la délivrance aux captifs? Quels captifs? Ben, aux accros de la drogue, à la drogue, aux accros au jeu, les accros à la pornographie, etc., etc., etc. C'est des captifs. Est-ce que tu renvoies libres les opprimés? Quels opprimés? Un opprimé, c'est quelqu'un qui subit une oppression, une opposition. Une femme qui est victime d'un mari, ou un mari qui est victime d'une femme. C'est une personne qui est soumise à un pouvoir tyrannique. C'est une personne en position de faiblesse. C'est une personne qui est asservie, qui est malheureuse. Est-ce que tu prends soin des opprimés? Est-ce que tu les renvoies libres, les opprimés? Libres. Renvoyer libre les opprimés, c'est faire de l'humanitaire, c'est prendre soin de celui qui est sans protection. Là, on a des nouvelles au sujet du château d'eau que notre association a fait avec l'aide de Emmaüs, Cahors. On est très contents, ça marche. Les femmes, plus de 2000 femmes et leurs enfants font du maraîchage. L'hôpital qui est juste à côté a enfin de l'eau, n'est plus obligé de faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau croupie dans un marigot dégueulasse pour soigner les malades. On est tout content de l'avoir fait. Et merci à tous les donateurs, mais pas merci à ceux qui n'ont pas donné. Alors vous, non, je vous dis pas merci. Parce que je vous ai dit, je vous ai raconté, je vous ai donné des photos, vous n'avez pas bougé à un pouce. J'ai les noms de ceux qui ont donné, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais on a quand même réussi à faire. Parce que c'est pas sur vous qu'on compte, c'est sur Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est que l'homme et la femme fassent en son nom. Il veut que nous fassions en son nom. Dieu va pas envoyer l'argent plomb du ciel qui tombe comme ça pour qu'on puisse faire des châteaux d'eau. Non, il veut qu'on puisse dans notre poche pour donner. Il a dit « Donnez et vous recevrez ». Vous recevez pas ? Vous êtes pauvres, vous êtes dans la misère, c'est pour ça que vous donnez pas ? Ben, vous avez tort. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez pas le peu que vous avez, donnez-le et vous verrez, Dieu va remplir votre budget, vous allez être dans l'abondance. C'est sa parole, c'est la bonne nouvelle pour les pauvres, ça. Rendre la vue aux aveugles, qu'est-ce que ça signifie ? Mais moi, je ne sais pas combien d'aveugles ont retrouvé la vue dans mes réunions, je ne sais pas. Il y en a tellement que je ne sais plus. Au début, je comptais, j'écrivais même. Et puis après, j'ai arrêté parce que... Mais c'est pas que ça, rendre la vue aux aveugles. C'est magnifique de voir un aveugle qui voit, qui pour la première fois voit ses enfants, pour un enfant aveugle qui voit son père. C'est magnifique. Quelqu'un d'aveugle qui voit qu'est-ce que c'est les fleurs, qu'est-ce que c'est les oiseaux, qu'est-ce que c'est, comment la nature est belle. C'est magnifique. Mais c'est pas que ça, rendre la vue aux aveugles. C'est aussi éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Quelles ténèbres? Les ténèbres de l'occultisme, du désespoir dû aux abus de certains religieux pervertis. Parce que quand quelqu'un est victime d'un religieux perverti, il entre dans les ténèbres. Combien de personnes se sont détournées de Dieu à cause des scandales religieux? Ils sont dans les ténèbres, il faut les en délivrer. C'est pas la faute de Dieu si ces cochons font ces choses. Vous me direz, oui, mais Dieu pourrait intervenir. Non. Non. Il laisse faire. Il nous a avertis. Tout ça, c'est dans la Bible. Le prince de ce monde, c'est le diable. Le prince de ce monde, c'est pas Dieu. Le monde a rejeté Dieu. Eh ben, Dieu dit, débrouillez-vous. Mais maintenant, ceux qui veulent son secours peuvent invoquer son nom et recevoir l'aide dont ils ont besoin. La consolation dont ils ont besoin, la guérison dont ils ont besoin. Mais comment sauront-ils si personne ne va leur dire? C'est notre mission. C'est notre mission. Le christianisme, c'est pas une religion. C'est la mise en pratique de ces 6 choses sacrées que Jésus est venu faire. Et en les faisant, il nous a montré l'exemple que nous avons à faire. Les 6 choses sacrées. Mais les 10 vierges dorment à point fermé. Certaines de ces vierges font de doux rêves. Elles voient Jésus, elles voient des anges, elles rêvent à des petits nuages roses. Oh, j'ai eu une vision, c'était merveilleux, j'ai vu le paradis, c'était formidable, alléluia. D'autres font des cauchemars. Parmi les 10 vierges qui dorment, des cauchemars de guerre, de bombes atomiques, de peste, de famine. Mais c'est encore que des rêves et des cauchemars en France. Il y a des endroits où c'est la réalité. Oh, mais qu'est-ce que... L'autre jour, j'écrivais ça à une sœur qui me dit « Mais qu'est-ce que je peux y faire ?» Moi, je dis, vous pourriez prier, par exemple, ah oui. Ah oui. Vous voyez qui dorment. Parce que dans les pays totalitaires, c'est le cauchemar éveillé. Oh, mais on prie pour eux. Relisez les 6 choses sacrées et dites, je suis là pour les accomplir. Et accomplissez-les. Vous serez persécutés, vous serez insultés, vous serez excommuniés par l'Église et par Facebook, mais au moins, vous aurez obéi à Jésus. Amen. Jésus, je te prie que cette parole un peu sévère trouve le chemin des cœurs les plus sincères afin qu'il se lève un peuple qui fasse ces 6 choses sacrées en ton nom. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Au revoir.